Bonjour à tous et bienvenue dans Amour. On se retrouve aujourd'hui avec le témoignage d'Océane qui nous raconte son histoire d'amour avec son mari Youssef qui est soudanais et réfugié politique arrivé en France en 2016. Elle parle de leur rencontre, de comment construire une relation ensemble avec deux cultures totalement différentes, de leurs trois mariages, de la peur de la routine, de la richesse de leurs différences de culture mais aussi des difficultés rencontrées et de la force de l'amour universel. Merci beaucoup à Océane pour son témoignage et merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter les épisodes d'Amour. Comme d'habitude, si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier@gmail.com avec amour en objet. Les informations sont en description. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute.
Est-ce que tu peux parler dans le micro pour voir? Il faut que tu sois assez proche sans pour autant renifler ses poils de chien, si te dérange. Mais tu vois, comme moi.
J'ai peur.
Ah putain, un jour,
mon chat va être jaloux.
Est allergique. Je suis dans la merde. Faudrait tout simplement que je les change, mais c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé encore.
Tu poses la question, ça peut être une condition en fait pour participer au podcast.
Mais tu sais, quand les meufs viennent chez moi, je leur dis par ailleurs, il se trouve que j'ai un chien. Est-ce que c'est ok avec ça? Parce que c'est normal, tu vois, si certaines ont peur et veulent pas quoi. Ok, et ben let's go. Alors, je suis avec Océane aujourd'hui. Salut Océane.
Salut Léa.
Comment vas-tu?
Ça va, fatiguée.
On est sur...
dire totalement le contraire.
On est sur un premier jour de règle.
Exactement.
On est sur une sensibilité vraiment... max.
Ouais, c'est ça. Émotion totale. J'ai failli craquer deux fois aujourd'hui.
Mais t'as pas craqué?
Mais j'ai pas craqué. Okay. J'avais les larmes aux yeux. Donc ça va sûrement arriver, mais du coup les auditrices et auditeurs ne le verront pas heureusement, mais le sentiront peut-être à ma voix. Et on est en fin de semaine du coup,
vendredi soir.
Voilà.
Vendredi soir. Est-ce que t'as craqué pour des trucs genre un peu débiles mignons que t'as vu dans la rue ou genre vraiment un truc existentiel?
Bah alors un truc un peu débile mignon d'une photo d'une amie d'enfance qui est pas hyper proche mais qui vient de se marier en Inde et j'ai vu une photo de deux. Trop beau, elle vit en Inde avec lui et ils étaient trop beaux en mode mariés quoi. Donc voilà, c'était ça le premier première séquence émotion de la journée et la deuxième c'était un truc un peu hardcore, un peu plus grave quoi.
D'accord. J'espère que je vais pas te faire pleurer.
Non.
Et puis si c'est le cas, c'est pas grave. Si c'est des pleurs d'émotion de joie,
pas de souci.
Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, où t'as grandi, qui tu es?
Oui.
Ça
fait beaucoup de questions en une, en effet. J'ai grandi, donc pour l'ordre, j'ai grandi en Champagne-Ardenne, dans un petit village qui s'appelle Joncherie-sur-Suippes, de 200 habitants.
Ah, mais je connais. Pas du tout.
Je voulais voir ta tête. Quand tu m'as dit 200.
Je vais dire, what? Mais t'es soit ma cousine, soit une vache du voisin. Ouais. Et vraiment, je vois pas d'autre possibilité.
Sache que Léa, ça veut dire vache sauvage aussi. Donc, j'aurais pu.
Bah voilà.
Mais c'est
dans
pas
une autre vie.
Voilà. Peut-être.
Donc voilà, j'ai grandi à la campagne. Et après, je suis arrivée, pour mes études, j'ai pas mal bougé. Je suis arrivée à Paris il y a presque 10 ans, je pense. Okay. J'ai fait des petits allers-retours. Et aujourd'hui, je travaille dans une association qui s'appelle Causon. On accompagne les personnes exilées à enseigner leur langue et à faire découvrir leur culture.
Okay.
Donc, on fait des cours de langue, de plein de langues différentes, et des événements interculturels pour célébrer les différentes cultures.
Trop bien. Voilà. Comment t'en es arrivée là?
Comment j'en suis arrivée là? C'est Paris qui m'a matrixée. Parce que quand je suis arrivée, j'ai trop aimé l'ambiance de Paris hyper multiculturelle. Écouter plein de langues dans le métro et tout.
C'était pas trop vénère de passer de ton petit bled de 200 habitants avec les vaches
à Paris Ça va parce que j'ai fait par étapes.
Okay.
Donc j'ai fait après Reims, après Lille et après Paris.
D'accord,
donc en fait, ça m'a préparée au fur et à mesure.
Oui,
donc
carrément.
C'était pas trop brutal. Et ouais, j'ai trop eu vraiment un gros coup de cœur pour Paris dès le début, malgré ses défauts et la violence.
Oui.
C'était quand même un gros coup de cœur. Et donc, surtout du coup de cœur de cette ambiance multiculturelle et aussi du choc un peu des personnes à la rue, parce qu'il y en a quand même beaucoup plus à Paris que dans les autres villes, en tout cas en termes de ressenti.
Ouais.
Et du coup, j'ai commencé à m'investir dans plein d'associations, faire des maraudes. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes exilées. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré plein d'associations, plein de personnes exilées. Et j'ai longtemps été bénévole, donc pendant plusieurs années. Et après, je l'ai un peu inclus dans mon taf et après j'ai carrément sauté le pas en disant pourquoi pas en fait en faire vraiment mon travail au quotidien, je suis tellement dedans.
Est-ce que tu faisais un truc différent avant?
Oui, avant j'étais dans une autre association, j'accompagnais des jeunes en service civique, okay. Mais du coup j'ai commencé à surtout accueillir des jeunes réfugiés.
Okay.
Et donc je faisais un peu de ça. Et encore avant j'étais prof, donc rien à voir. Mais il y avait quand même aussi beaucoup d'enfants qui venaient d'arriver avec leur famille, donc il fallait aussi faire ce volet accueil. Donc je l'ai toujours eu un petit peu en filigrane dans mes anciens emplois. Et là, je me suis dit, bon, je saute le pas. J'ai vraiment envie de construire mon univers professionnel autour de ça. Donc, j'y vais. Et ça me plaît beaucoup.
Écoute, j'allais te poser la question. Mais tu as terminé là-dessus. Voilà. On est là pour parler d'amour aujourd'hui. Tu veux me parler de ton histoire d'amour actuelle?
Oui.
Si je ne dis pas de bêtises, d'après ton mail. est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette histoire?
Alors, la rencontre, c'était il y a un peu plus de 3 ans.
Ouais.
Et c'était dans le cadre de mon ancien travail, en fait.
Okay.
Parce que donc, j'accompagnais des jeunes en service civique. Et du coup, je leur trouvais des missions de service civique un peu partout dans différentes associations.
Ouais.
Et je connaissais une association d'amis qui faisait de la cuisine et de la distribution de repas dans la rue. Donc à des personnes qui sont à la rue. Et du coup, j'ai inscrit mes jeunes pour qu'ils participent à la cuisine et à la maraude. Et quand je suis arrivée, du coup, il y avait des bénévoles que je connaissais, c'était des amis et tout. Donc j'ai dit bonjour à tout le monde. Et il y avait cette personne que je ne connaissais visiblement pas qui était à côté de mon ami. Donc je dis bonjour à mon ami. Je lui ai parlé en arabe parce qu'ils sont soudanais tous les deux.
Okay.
Je lui parle en arabe, je lui dis bonjour et tout. Et du coup, je vois que l'autre personne est très intriguée. Donc, je lui dis bonjour et j'étais hyper intimidée.
Pourquoi? Il t'a plu tout de suite?
Ouais. Enfin, en fait, il est... tu l'as croisé, ouais. Il est grand.
Ouais.
Et genre, il était dans une petite cuisine où il cuisinait. Et du coup, j'ai l'impression que la cuisine a été beaucoup trop petite pour contenir cet homme, tu vois, ça me faisait trop bizarre. Et c'était à l'époque Covid, donc il avait un masque.
Mm.
Donc je sais pas, il était intimidant, mais à la fois intrigant.
Ouais.
Et donc, non, je peux pas dire c'est un love at first sight et tout, mais genre un peu intrigue, intimidé et tout. Après, je suis partie revoir mes volontaires un peu intimidée. Et donc voilà, ça c'était la première rencontre. Rien de plus que bonjour, ça va, et c'est tout. Après, j'ai fait ma vie, je suis repartie et pendant plusieurs mois, c'est tout. Enfin, j'y ai pas trop pensé.
Ok, tu l'as pas vu pendant plusieurs mois?
Non,
après ça.
Non, je l'ai pas vu pendant quelques mois. Et après, donc moi, j'étais amie avec... Enfin, il y avait un de mes amis avec qui je traînais beaucoup. On jouait beaucoup au ping-pong, on court vers Stalingrad et tout. Et il m'a dit « Ah, mais il faut trop que tu rencontres mon pote et tout, vous allez trop bien vous entendre. » Et à chaque fois, il me disait ça, je disais « Non, mais c'est bon, enfin, j'ai pas besoin de nouveaux potes, je suis très bien et tout, il n'y a pas de ce... » Un peu flemme, tu vois.
Et tu savais de qui il parlait?
Non, je ne savais pas du tout.
Ouais.
Et un jour, il me dit « Viens manger chez moi, j'ai invité le pote dont je te parle depuis plusieurs mois et tout. » Je dis « Ok ». Donc j'arrive et là, en fait, j'ouvre la porte et je vois que c'est ce même gars que j'avais vu quelques mois avant. Dans le cadre de mon travail, donc qui était bénévole. Et du coup, je suis contente, mais là, je me dis, merde, putain, je suis en jogging, pas du tout présentable. Moi, je vais avoir mon pote et un autre pote. Enfin...
Mais justement, c'est bien, ça annonce.
Ouais,
ça annonce tout de suite.
Mais lui aussi portait un jogging pour ma défense, bon. Mais il le portait beaucoup mieux que moi, je trouve. Et donc, j'arrive. Donc là, on a le temps vraiment de parler plus. Mon pote, il cuisinait à côté, donc on parlait vraiment. Après, on allait l'aider de temps en temps. Donc, le contact se fait très bien, facilement et tout. On passe une super soirée, on mange ensemble. Franchement, trop bonne soirée.
Ouais.
Et je crois que... Non, c'était pas pendant le ramadan. Non, c'était avant, il me semble. Et donc, voilà. Et là, je commence à me dire, OK, bon, là, je suis un peu déstabilisée. Il me plaît. Donc, on rentre en même temps à vélo parce que j'habitais à Aubervilliers, lui à Pantin. Enfin bref, pas très loin. Et nos chemins se séparent. Et je rentre chez moi, genre un peu tout excitée et tout de cette rencontre, de cette soirée. Je me dis, waouh, ok. Mais on ne s'était pas échangé de numéro ni rien. Mais je savais que mon ami allait tout le temps le revoir et tout. Donc, je me disais, c'est très facile de le revoir.
Oui, il a l'air sympa, ton ami, niveau organisation de rencontre. Il a géré quand même.
Très sympa. Je pense que ce n'était pas voulu, en plus. Okay. Il se disait vraiment sincèrement qu'on allait bien s'entendre.
D'accord.
Mais jamais... je pense qu'il avait pas orchestré tout ça. Quoi. Okay, c'était d'accord. Pas en mode Cupidon, c'était en ouais. mode j'aime bien que mes potes s'entendent bien. Quoi.
Oui, ok.
Et du coup, après ça, il nous a donc cet ami en commun, il nous a invité à un jogging tous les deux parce que on fait souvent de la course à pied ensemble.
Un jogging en jogging, du coup.
Un jogging en jogging, voilà, deuxième rencard en jogging. C'était pas encore un rencard. Et donc c'était un peu le début de plein de rendez-vous où on allait courir ensemble, on allait faire plein d'activités ensemble, on allait souvent manger chez lui parce que j'aimais trop là où il habitait. C'était vraiment un petit cocon. Et donc voilà, on n'arrêtait pas de se voir, mais tout le temps à trois. Okay. Donc là, je commençais à trépigner un peu en mode mais putain, comment faire en sorte que mon pote parte en fait. Et j'en parlais tout le temps à mes copines en mode ah mais je fais comment et tout. Ouais. Elle me disait mais va lui dire et tout, mais trop timide, jamais je lui dirais. En plus, j'étais pas du tout sûre qu'il m'aime bien, donc je disais rien du tout. Et après, je suis partie en vacances et il m'avait prêté un livre, je me rappelle, de Taïeb Saleh, c'est un auteur soudanais qu'il aime trop.
Okay.
Un livre qui s'appelle Saison de migration vers le nord, qui est génial d'ailleurs, je te recommande. Et du coup, vu qu'il me l'avait prêté, c'était le truc que j'avais de lui quand j'étais en vacances. Donc ouais. Là, je l'ai lu une fois, j'ai trop aimé. Ouais. Je l'ai relu une deuxième fois, j'ai écrit une analyse du livre, je te jure.
Pour pouvoir en parler.
J'ai écrit une analyse, ouais, bien sûr. Et après, on en parlait. Et du coup, c'est là où on a commencé à s'échanger des messages privés.
Donc, ok.
Trop bien.
Ouais.
Parce qu'avant, on s'écrivait à trois dans un groupe. C'est incroyable, ce trio. Ça ne s'arrêtait pas. Et donc, là, il commence à me dire tu me manques à peine. Sur WhatsApp.
À peine.
Je lui dis, comment ça, à peine? Et en fait, c'était juste une erreur de vocabulaire de français. Il pensait qu'à peine, ça voulait dire beaucoup.
Okay.
Et du coup, genre, trop marrant, je lui dis, mais pourquoi à peine? Ouais, genre, c'est pas sympa, tu vois. Il me dit, ah putain, je pensais que ça voulait dire beaucoup, moi. Bon, du coup, on rigole à propos de ça. Donc là, on s'engage un peu à deux dans une conversation. Et après, quand je reviens, rebelote un dîner à trois. Et après, bah, on revient en vélo tous les deux. Et là, je repars chez lui. Et là, c'est là que tout a commencé. Vraiment, la relation a commencé entre nous. Mais c'est vrai que du moment où on a dîné tous les trois chez mon ami, après, on s'est pas lâché. On se voyait vraiment tous les jours, tous les deux jours.
Okay.
Et c'était la fin, je crois, du deuxième confinement. Donc, il n'y avait pas non plus bête d'activité à faire. Ouais. Enfin, vraiment, on zonait autour,
traînait,
on était
quoi.
Dehors, ouais, on traînait ensemble. Donc, c'était trop bien comme début de relation.
Donc, finalement, tu lui plaisais.
Et donc, finalement, oui. J'ai eu la surprise de découvrir qu'en fait, lui, il faisait exactement la même chose ouais. de l'autre côté, de son côté. Et après, du coup, c'est marrant parce qu'on se racontait les épisodes précédents en mode ah mais toi du coup t'as pensé quoi quand j'ai fait ça, ah mais toi aussi tu voulais que je fasse ça et tout, et on s'est redécouvert les moments, on a redécouvert ce qu'on a pensé chacun à différents moments, c'était trop cool aussi.
Donc là ça fait 2-3 ans que vous êtes ensemble, quelque chose comme ça.
Et ouais, là ça, du coup ça va bien, ça va faire 3 ans en avril. On a vécu ensemble assez rapidement parce que je voulais partir de ma coloc.
Ouais.
Et du coup, j'ai commencé à déménager mes affaires chez lui et je suis partie en voyage pendant un mois. Et quand je suis revenue, je m'étais dit, bon, bah, je trouverai un studio en revenant. Comme ça m'économise quand même un mois de loyer. Et puis, pas du tout trouvé de studio. Je suis restée chez lui, tout simplement, dans son studio.
Que tu aimais beaucoup.
Que j'aimais beaucoup. En fait, c'était ma stratégie pour vivre chez lui.
Ah, c'était malin.
C'était très malin.
Donc lui, il est soudanais, c'est ça ?
Ouais, il est soudanais.
Okay.
Il arrive en France en 2016 en tant que réfugié politique qui fuyait la dictature du Soudan.
Tu voulais me parler de différence de culture, c'est ce que tu m'as dit dans ton mail. À quel niveau, comment ça s'est passé pour toi, la découverte de sa culture, la découverte de la tienne, le regard des autres peut-être ? Je te pose plein de questions en une fois, je suis désolée.
Non,
après, je te
bien.
Dis, débrouille-toi.
C'est parfait, comme ça, je choisis celle que j'aime bien.
C'est ça, exactement.
C'est parfait. Alors oui, je me disais qu'en fait c'était cool de raconter mon histoire parce que ça montre un peu qu'on peut venir de cultures totalement différentes et qu'on peut quand même construire une relation ensemble et que c'est pas grave, en fait on peut faire avec. Et je trouve qu'il y a assez peu de représentations de couples comme ça, de cultures totalement différentes. Parce qu'en fait, j'en ai cherché beaucoup, j'ai même cherché des podcasts, j'ai cherché plein de ressources et j'ai du mal à trouver. Donc je me dis que c'est cool de prendre la parole et du coup peut-être que de plus en plus des personnes vont en parler. Et donc la différence culturelle, elle se fait ressentir au quotidien parce que quand même, le Soudan, ça n'a rien à voir en termes de culture. On est vraiment pas du tout sur les mêmes codes culturels ni rien. Après, c'était pas un choc en le rencontrant parce que j'avais déjà beaucoup d'amis soudanais, donc je connaissais déjà pas mal de choses de la culture. Et lui, pareil, il est arrivé en France en 2016, donc la culture française, ça y est, il était habitué, il a bien compris. Et je pense que au fur et à mesure, le fait de vivre ensemble, on est obligé de faire des compromis et de choisir en fait dans les deux cultures ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Donc il y a des aspects de la culture soudanaise parfois qui reviennent, parfois on préfère faire des trucs de la culture française. Enfin, c'est assez cool parce que on choisit entre les deux, on mélange les deux en fait. On fait beaucoup de mélanges culinaires, on fait du mélange même quand on parle en fait. Quand on parle, ça ressemble à rien. Parce que si tu nous écoutes, on fait des mots en français, des mots en arabe. Et on fait même des mots mélangés français-arabe.
Ok.
Ou genre.
Trop bien. Vraiment n'importe quoi. Vous avez votre propre langage.
Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, tu prends un mot en français et tu lui donnes une propriété de l'arabe ou l'inverse. Mm-hmm. Genre, tu conjugues. Parfois, on conjugue des mots français comme si on conjuguait l'arabe.
Ok.
Enfin, bref, on écrit avec l'alphabet arabe avec l'alphabet arabe du français. Enfin, bref.
Et toi, t'as appris l'arabe?
Oui.
Il y a un moment
En 2017, j'ai commencé.
Okay.
Donc, bien avant de le rencontrer, avec l'association dans laquelle je travaille maintenant, j'avais appris par curiosité parce que j'aime trop apprendre les langues et qu'il y avait beaucoup de personnes arabophones dans mon quartier, dans mon entourage. Et vu que j'étais très impliquée dans les assos auprès des personnes exilées, il y avait quand même beaucoup de personnes du Soudan, de Syrie, de Palestine et tout. Donc, ça m'avait trop donné envie d'apprendre.
Trop bien. Ça devait pas être simple d'apprendre l'arabe.
Non.
Non. Je sais pas quel âge t'as d'ailleurs, je t'ai pas demandé. Enfin, je sais pas si c'est une question d'âge d'ailleurs, de difficulté de la langue, mais généralement quand c'est plus petit, c'est un peu plus simple.
Ouais, quand t'es enfant, c'est sûr que c'est très très simple. Et non, du haut de mes 28 ans, j'étais plus jeune à l'époque. Mais c'est dur en vrai. C'est pour ça qu'il faut la motivation et il faut vraiment pratiquer avec des personnes ou partir en voyage et tout. Parce que sinon, c'est hyper dur, même pour la prononciation.
Bien sûr.
Mais ça se fait vraiment.
Okay. Au niveau de ta famille, est-ce que tu l'as présenté assez rapidement à ta famille, à tes amis? Comment ça s'est passé?
Ouais, je l'ai présenté assez rapidement, on dira. À mes amis, carrément, oui. Y en a qui le connaissaient déjà, du coup. Et je l'ai présenté rapidement à mes amis, qui l'adorent, vraiment. C'est incroyable à quel point il l'aime, je crois.
C'est trop bien, ça, c'est bon
ouais,
signe.
C'est trop bien. Et à ma famille aussi, ça s'est trop bien passé depuis le début. Je me rappelle le moment où je l'ai dit à ma mère. J'étais dans un endroit très bruyant, à Porte de la Villette, vraiment, tu vois, genre le début du périph et tout, on ne s'entendait pas, mais je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce moment. Je me suis dit comme ça, je n'entends pas sa réaction. Désolée, ça coupe. Ça s'est hyper bien passé. Ils s'entendent super bien. Ma mère adore Youssef, apparemment. Et lui adore ma mère. Donc,
Parce que dans certaines familles, malheureusement, ça aurait pu être emmerdant que tu sortes avec un Soudanais. Donc, c'est trop bien que ça soit bien passé.
Ouais, carrément. Franchement, je suis trop contente. Aucun problème de ce côté-là.
Avant lui, est-ce que tu as eu des histoires d'amour plutôt heureuses?
Avant lui, j'avais un peu perdu foi, je crois.
Je comprends.
En l'amour romantique, en tout cas. Enfin, j'ai toujours aimé l'amour et l'amour en général. Mes copines diront que je suis une vraie balance, que je ne trahis pas mon signe astrologique, vraiment.
Ça me fait trop rire à chaque fois. Il y a un moment où on parle d'astrologie
c'est
dans ce podcast. Ouais, je pense que ça énerve la moitié des personnes qui nous écoutent. Ou alors la référence n'est pas comprise, mais c'est pas grave. Je comprends quand tu dis que t'es balance.
Ouais, bon, merci de me comprendre. C'est vraiment mes copines qui m'ont convertie. Donc oui. L'amour en général, mais après l'amour romantique, ouais, j'avais perdu un peu foi après une histoire compliquée qui s'est finie il y a 8 ans, donc qui date de une dizaine d'années, ça s'était pas super bien passé, il était très manipulateur, très dévalorisant, enfin je suis sortie de cette relation dévalorisée, où j'ai eu besoin vraiment de faire un moment sans personne, toute seule, tranquillement. Et après, une fois que j'étais plus prête, j'ai eu plein de relations très chouettes, enfin très légères, mais où je voulais pas plus d'implication. Et à ce moment de ma vie, ça m'allait très bien. Et donc j'étais dans ce mood de ok, je papillonne, tout va bien. Enfin, c'était vraiment une période trop bien. J'adorais le cœur sur la table. Je me disais mais évidemment, il y a plein de formes de relations. Moi, je suis pas faite pour être en couple comme ça, fermée toute ma vie avec la même personne. Voilà. Je revendiquais ça, je criais ça sur tous les toits. Ça m'allait bien. Et c'était très sympa parce que, enfin, en couple, c'est vrai qu'on s'installe dans la routine. Il y a les trucs du quotidien, tous les trucs négatifs. Alors que mes relations à ce moment-là, c'était que des trucs légers et positifs. Hein, je voyais que du positif, donc c'était parfait. Donc voilà, je pensais finir comme ça, continuer comme ça et tout, jusqu'à cette rencontre vraiment surprenante. Mais ouais, je ne m'y attendais pas du tout. C'était pas, je ne cherchais pas à me poser. Et je ne pensais pas que j'en étais capable autant de me poser autant, en fait.
Et finalement, t'es revenue dans un truc un peu classique.
Bah ouais, et finalement, je suis revenue, j'ai changé complètement d'idée. Et finalement, je suis revenue à un truc classique. Et oui, en fait, tout le monde, chacune,
c'est des phases.
Trouve son type de relation au moment de sa vie. Ouais. Et là, je pense que c'était du coup le bon moment pour le rencontrer, le bon moment pour se poser avec lui. Et ouais, c'était chouette.
Lui, il a rencontré ta famille, donc. Et est-ce que toi, tu as rencontré sa famille ?
Oui. Moi, j'ai rencontré sa famille en mars de l'année dernière.
Ok.
Déjà, je les avais beaucoup au téléphone, parce qu'on s'appelle quand même assez souvent. Mais bon, c'est pas pareil de les avoir au téléphone. Donc, je connaissais que leur voix et des photos. Et en mars, on a décidé d'y aller. Donc, c'était un gros, gros voyage et un gros moment pour nous deux, parce que lui, ça faisait 7 ans qu'il n'était pas rentré chez lui, qu'il n'avait pas vu sa famille. Et il est vraiment très, très attaché à sa famille. Enfin,
C'est énorme, 7 ans.
Ouais, c'est énorme. 7 ans sans voir sa maman, sans voir ses sœurs, ses frères et tout. Il a une grande famille qui est hyper soudée. Ils habitent ensemble et tout. Donc, vraiment, c'était long. Donc, il attendait ce voyage depuis très longtemps. Et donc, il est parti une semaine avant moi pour pouvoir vraiment avoir un temps pour les retrouver ensemble. Et moi, je suis arrivée une semaine après, donc j'ai rencontré toute la famille tout d'un coup.
Ah, ça devait être un accueil de ouf pour toi.
C'était un accueil de ouf. Sa mère, elle est carrément venue à l'aéroport avec son frère pour nous chercher et tout. C'était trop bien. En plus, c'était la nuit. Je suis arrivée au moins à minuit. Ouais. Et on est rentré donc dans la maison familiale qui est en banlieue de Khartoum, la capitale.
Okay.
En banlieue bien profonde, enfin de l'intérieur, on dirait un village, mais en fait, ça appartient vraiment à la ville, quoi.
Okay.
Donc, c'est assez étonnant. Et un accueil, mais trop chaleureux. Enfin, sa famille, elle est vraiment trop, trop mignonne. Tout le monde est trop gentil. Et il a deux sœurs qui ont à peu près mon âge. Et on avait déjà bien discuté au téléphone. Et du coup, ça matche trop avec ces deux sœurs que j'aime trop, avec qui j'aime trop discuter. Et c'est une famille très ouverte et qui n'a pas eu de problème non plus à m'accepter, parce que ça aurait pu être un gros problème au Soudan de comme ça peut l'être en France, en fait, d'épouser quelqu'un qui est complètement d'une culture différente. Mais ça ne l'a pas du tout été et ils m'ont hyper bien accueillie. Donc vraiment, de ce côté-là, il n'y a pas eu de problème. Juste la langue, heureusement que j'avais appris l'arabe.
Ouais,
j'aurais galéré pendant 2 semaines à rien comprendre autour de moi. Donc là, ça va, je comprends à peu près tout ce qu'ils disent, sauf quand ils parlent vraiment trop vite entre eux. Mais donc, c'était vraiment un super moment. Je suis restée 2 semaines dans sa famille et c'était incroyable. En fait, quand on est réfugié en France, on ne peut pas retourner dans son propre pays, parce qu'ils partent du principe que si tu la fuis, si tu y retournes, tu es en danger. Donc, il a dû attendre d'avoir la nationalité française pour pouvoir y aller. Donc, il y est retourné en tant que Français.
Ouais.
C'est pour ça qu'il n'a pas pu y aller avant longtemps. Et aussi, là, on ne peut plus y aller, en fait, parce que nous, on y allait en mars et on est rentrés. Et 2 semaines après, la guerre a commencé. Donc là, depuis avril 2023, c'est la guerre. Donc là, clairement, on ne peut pas y aller. Déjà, il n'y a plus d'aéroport de Khartoum. Et là, en ce moment, vraiment, la guerre bat son plein. Donc, entre les forces rapides, je le dis jamais en français, les forces rapides de soutien, les forces de soutien rapide et l'armée du Soudan. Et du coup, ils se battent entre eux Et les frais, en fait, c'est les civils, quoi, qui payent.
Et toute sa famille est là-bas ?
Et toute sa famille est là-bas, oui. Mm.
Et ils n'ont pas pu partir comme lui a pu partir ?
Non. Non, ils ne sont pas partis. Non, c'était trop compliqué de tous partir. Et c'était plutôt à ce moment-là Youssef qui était en danger. Donc lui, il est parti seul. Et c'était la dictature à ce moment-là. Après, le dictateur a été renversé. Il y a eu 2 ans de période de transition bizarre. Et après, la guerre a éclaté. Et là, c'est hyper dangereux en fait, de fuir maintenant que les combats sont un peu partout. Donc eux, sa famille, elle a décidé vraiment de rester. Et vu qu'ils sont... pas dans la ville, mais vraiment quand même un peu éloignés. Bon, c'est vraiment pas. Enfin, ils sont pas du tout en sécurité, mais ils sont moins proches des combats que d'autres personnes peuvent l'être. Okay. Mais donc, c'est une période très, très stressante depuis avril pour nous, parce que dès que mon mari entend son portable sonner, il sursaute parce qu'il a peur d'entendre des nouvelles. Et tous les jours, en fait, on entend des nouvelles de proches, d'amis qui ont reçu une balle ou qui connaissent quelqu'un qui est mort. Enfin, ouais.
Mais il arrive pour autant à être en contact régulièrement avec la famille ?
Il arrive à être en contact. Il y a certains moments où plusieurs jours, voire une semaine, on n'arrive pas à les avoir parce qu'il n'y a pas de courant ou il n'y a pas d'électricité. Enfin, ouais, soit il n'y a pas de courant, soit il n'y a pas de réseau. Donc, parfois, c'est difficile, mais on arrive quand même à communiquer tous les 4-5 jours, un truc comme ça.
Okay. T'as dit épouser ? Tout à l'heure ?
Ouais, j'ai dit épousé.
Est-ce que du coup, il y a eu un mariage ou un futur ? Alors... où je m'emballe, c'était façon de parler.
T'es pas prête, il y a eu 3 mariages, mais on n'est toujours pas mariés à la mairie.
C'est vrai ?
Alors, on a fait un mariage religieux, on a fait un pax, et on a fait, entre les deux, une fête de l'amour, une fête de l'union.
Trop bien.
Ouais. On ne savait pas comment appeler ça. Et du coup, on a appelé ça, je ne sais même pas comment on a appelé ça, une fête de l'union, de l'amour. Enfin, du coup, j'ai des potes qui disent « Ah, votre mariage », il y en a qui disent « Ah, à votre pax », « Ah, votre fête enfin, ».«
Votre crémaillère ».
Ouais, limite, c'était limite ça. Tout le monde dit un truc différent, mais c'était juste incroyable. C'était le 11 juin 2022.
Ok.
Donc ouais, ça c'était la fête. Donc entre le mariage religieux et le pax, malheureusement, il n'y avait pas la famille de mon mari du coup. Parce que trop compliqué de... Enfin, c'est pas possible même de venir du Soudan. Mais il y avait tous nos amis, tous nos proches. Moi, il y avait ma famille. Et on était d'ailleurs dans la maison de ma famille. Et du coup, c'était un moment juste magnifique. Hors du temps, on avait déjà un temps, une météo de ouf.
Ouais.
Et en plus, on avait invité... Enfin, c'est les amis de mon mari qui avaient invité tout un groupe soudanais qui est venu chanter. Et c'était ouf. On a fait des jeux toute l'après-midi pour que tout le monde se connaisse. Et après, grosse soirée, petit michouille avant de danser. Et après, on a dansé toute la nuit. Donc, c'était juste un moment vraiment mémorable. Ouais.
Et tu avais une sorte. Tu avais une personne qui faisait une sorte de cérémonie ou pas spécialement ? C'était
non.
Juste la teuf.
Ouais. C'était juste la fête, ouais.
Okay.
On a fait chacun un petit discours. Oui. Et ma mère avait préparé un discours surprise aussi. Mais non, pas de cérémonie particulière. On en fera peut-être un quatrième mariage. Donc
Non, mais c'est génial. Mais t'en fais plein, t'en fais tous les ans.
C'est trop bien. Bah, tous les ans, tous les ans quelque chose. Comme
est-ce
ça.
Que vous allez vous marier ?
On ne sait pas. Pourquoi pas ? Quand on s'en ira.
L'esprit, ouais, c'est ça. On se fait chier, viens, on se marie, on se fait. On
bah ouais,
fait
on fait une petite
comme
fête.
Ça.
Bah, en vrai, c'est l'occasion de réunir tout le monde, c'est cool.
Est-ce que tu pensais il y a quelques années, là, quand tu me parlais de ta... de ta période Victoire Toyon.
Je l'aime toujours comme autant, ça, hein,
bien sûr, je comprends très bien. Mais est-ce que tu... Bah ouais, c'est quelque chose auquel tu aurais pu penser à ce moment-là, ou avant, tu vois, petite et tout, au mariage, c'est quelque chose que tu voulais ou...
J'ai jamais fantasmé sur l'idée du mariage.
Ouais.
J'ai toujours trouvé ça sympa, mais je me suis jamais dit c'est l'indispensable de ma vie, vraiment... Donc non, non, j'aurais jamais pensé faire 3 fois une fête d'union non plus. J'aurais jamais pensé me marier religieusement non plus. Enfin,
ouais,
j'aurais jamais pensé aussi me marier avec une personne de nationalité soudanaise. Enfin, comme je t'avais dit, je viens d'un tout petit village où vraiment il y avait que des personnes françaises. Donc ça m'aurait jamais passé à l'esprit quand j'étais petite, quoi.
Et le mariage religieux, comment ça s'est passé ?
Alors, c'était en plus petit comité.
Ouais.
Ça s'est passé, du coup, avec un cheikh qui nous a mariés. Et en fait, donc il est de religion musulmane.
Ok.
Et il faut qu'on ait chacun un, je sais pas comment traduire en français, mais un représentant, on va dire. Et en fait, il par l'union des représentants, il nous unit tous les deux. Donc on a fait ça, c'était assez émouvant. Moi, j'ai pas tout compris, j'avoue.
Mais t'as dit oui.
Mais voilà, je me suis quand même engagée dans le truc. Ça se trouve, pas du tout ce que j'avais demandé. Non, c'était sympa et c'était surtout avec les proches de Youssef. Et je dis son prénom, mais je sais même pas si j'ai son accord. Mais si, je pense.
Je pourrais louper.
Si, je pense que c'est bon. Et oui, c'était surtout avec ses proches et c'était surtout important pour lui. Et vu que c'était important pour lui, bah, ça l'est devenu pour moi. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas particulièrement d'attache par rapport à le célébrer d'un point de vue d'une religion particulière. Donc souvent, je lui dis, mais tu crois que dans 10 ans, on se rappellera qu'on s'aimait autant? Enfin, ça se trouve,
mignon.
On va oublier, ça va être horrible.
Ouais.
Donc je lui dis, parfois, il me dit des trucs tellement mignons. Et je pense que vu que bah, c'est pas, on se parle pas forcément dans notre langue maternelle, ouais. On dit des choses encore plus mignonnes malgré nous, parce que c'est pas exactement, je sais pas, il y a des subtilités qui sont différentes. Parfois je dis des trucs en arabe, il dit waouh, ouais, mais c'est trop mignon ce que tu viens de dire. Ouais. Et pareil, il dit des trucs en français, j'aurais jamais pensé, parce qu'on n'a pas le même point de vue sur la langue. Et du coup, je lui dis, mais tu veux pas m'écrire quand tu me dis des trucs comme ça? C'est trop chou. Tu me rediras plus ça dans 20 ans, en fait.
C'est marrant quand même comment, du coup, t'es dans la projection d'un truc hyper lointain, oui. En disant, mais ce sera fini, en fait. On s'aimera pas autant.
Exactement. Bah, tu vois, ma conception de l'amour romantique, c'est ça. C'est pour moi, je me dis, comment l'amour peut durer aussi longtemps entre deux personnes, ouais. Alors qu'on partage 30 mètres carrés, ouais. Et qu'on est tous les jours, on se voit tout le temps. Moi, comme je te disais tout à l'heure, 10 jours par mois, je suis imbuvable avant mes règles. Après, j'ai mes règles, je suis fatiguée. Donc,
tu parlais de routine tout à l'heure, c'est un truc qui te fait peur?
La routine, ça, bah, je pense que ça me faisait peur. Et que du coup, quand j'étais dans des relations plus légères, je me disais « Waouh, c'est vraiment trop bien parce que j'ai pas ce côté routine. » Et du coup, je diabolisais la routine en mode « Là, je suis trop bien et je serais trop mal si j'avais quelqu'un avec qui je vis et tout parce que ce serait la routine. » Mais en fait, je pense qu'on trouve d'autres formes de plaisir et maintenant, j'aime trop. Et j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas de routine.
Ouais.
On fait pas souvent les mêmes choses. Et en fait, même si on fait la même activité, on le ressent toujours différemment. Par exemple, notre activité préférée, littéralement, c'est d'aller boire un café dehors au soleil.
Ah, ouais.
C'est vraiment, ouais, c'est la vie en fait. Crève. Boire un café au soleil, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, dès qu'on peut, dès qu'on voit un rayon de soleil et qu'on est tous les deux, on se regarde et on va boire un café au soleil, quoi. Et donc, ça peut être un truc de routine, mais en fait, ça ne l'est pas. On est toujours excités de boire notre café au soleil et je pense que ça restera ça pendant longtemps.
Tu connais le site « Je veux du soleil » ou un truc comme ça, .com ?
Non.
C'est peut-être pas le truc exact, mais en fait, j'en avais marre parce que justement, j'aime trop prendre ces petits cafés au soleil ou une petite bière et tout dès qu'il y a un rayon. Et puis j'allais, tu vois, dans des bars que j'aime bien ou quoi, dans des cafés, il n'y avait pas de soleil. Donc j'étais dégoûtée. Je me disais, putain, c'est pas l'heure. Et il y a une sorte de site, appli, qui permet de voir là où tu te trouves, enfin, à Paris, dans ton quartier, je sais pas où. Et ouais, qui permet de savoir jusqu'à quelle heure, genre, tu peux aller te poser au soleil. Ça, c'est la vie. Je trouve que c'est une invention incroyable.
Mais oui, je veux du soleil, ok.
Ouais, je vais vérifier, je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Il fait longtemps qu'on n'a pas eu de soleil.
Parce que moi, je pars de mon quartier et du coup, je sais dans mon quartier.
Bien sûr. Tu descends et
exactement,
tu fais tes 6 étages.
En fait, c'est hyper facile à côté du canal, là où je vis. D'un côté, il y a le café où on y va si c'est le matin.
Ouais.
Et de l'autre côté du canal, c'est le café où on va si c'est l'après-midi.
Bien sûr.
Donc, non, on choisit entre les deux. Donc, on ne change pas trop. Mais c'est vrai que si on veut... Si on a des prétentions de découvrir d'autres quartiers, ce qu'on fait très rarement,
ouais,
j'avoue, c'est une super, super idée.
C'est 25 degrés est le matin, non?
Non, c'est l'après-midi.
Ah, c'est l'après-midi.
C'est l'après-midi, ouais.
D'accord.
Et très beau pour les fins de journée, coucher de soleil et tout.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus la bière, 25 degrés est, que le café.
Et le matin, ouais, c'est en face, du coup.
Donc, en tout cas, tous les petits éléments qui pourraient constituer une routine pour toi, il n'y a pas de souci, quoi.
C'est vrai qu'on parlait de ça.
Oui.
qu'on peut faire tous nos restos, nos cafés préférés au sol, il n'y a pas de souci.
C'était parti, là.
J'adore ça.
Ouais, c'est ça, en fait. Maintenant, c'est vraiment devenu une routine. Enfin, non, c'est une routine, mais c'est agréable.
Ouais.
C'est agréable et à chaque fois, on passe tout le temps du bon temps. Mais j'ai quand même cette question en tête. Cette réflexion de me dire... ce sera sûrement pas ça dans 10 ans. Là, ça va faire 3 ans et j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. On
s'aime
toujours autant, donc c'est trop bien. Mais je me dis, ça se trouve, dans 10 ans, on pourra plus se voir. Mmh. Et tous les trucs un petit peu qui dérangent chez l'autre, genre, je sais pas, des habitudes de merde. Mais moi, j'aime pas entendre des gens mâcher. Vraiment, j'arrive pas.
Oui, je comprends.
Et lui n'a aucun problème avec ça. Et du coup, je me dis, peut-être dans 10 ans, j'en pourrais pas. Plus vraiment, ça va être un motif de rupture.
Est-ce qu'il mâche trop fort ?
Il mâche trop fort.
Ah ouais, ça crée des problèmes. Je peux te faire peur, mais...
Ah ouais, c'est terrible, vraiment. Donc, toutes nos disputes sont autour des moments de repas.
Ou alors, au bout d'un moment, chacun mange de son côté et puis c'est très bien comme ça.
Ouais, c'est possible. Il va manger dans sa chambre, je vais manger dans le salon. Ouais.
Tu disais qu'il y avait peu de représentations de couples... comme le vôtre. Mm. Pourquoi tu penses qu'il y en a pas peu?
Je sais pas du tout pourquoi. Ou peut-être qu'il y en a, mais que je les ai pas trouvés. Mais en tout cas, je sais pas.
Est-ce que toi, ça t'intéressait d'entendre des témoignages, de rencontrer des gens, de discuter autour de ça?
Ouais, ça m'intéressait vraiment parce que je trouve que c'est une vraie question en fait et que on se rend compte au quotidien. En fait, ça serait plus facile. Et parfois, on se le dit même. On se dirait, mais en fait, ce serait beaucoup plus facile si tu étais avec une femme soudanaise. Là, on n'aurait même pas cette discussion. Mmh. Et il n'y aurait même pas cette dispute ou ce problème. Et pareil, moi, si j'étais peut-être avec une personne qui avait une culture européenne, on éviterait beaucoup de disputes, de malentendus et tout, de situations où on ne se comprend pas. Et on se disait vraiment, ça nous rajoute de la difficulté, en fait, cette différence culturelle. Donc, du coup, au quotidien, ça rajoute de la difficulté, mais à la fois, c'est aussi ce qui fait notre richesse et notre force, parce qu'on s'est créé un environnement à nous, un mélange de nous deux, et qu'on n'a que nous deux, en fait, et c'est ça qui est trop beau. Et je pense qu'il y a plein de sujets à aborder, en fait, au quotidien... Ouais, je pense qu'il y a plein de thèmes autour de ça qui pourraient être hyper intéressants. Et quand j'ai cherché sur Internet, c'est vrai que j'ai rien trouvé. Mais pourtant, autour de moi aussi, j'ai beaucoup de couples mixtes autour de moi. Donc, je sais qu'il en existe plein, mais il n'y a pas encore beaucoup de documentation dessus. Si tu veux faire ta prochaine saison dédiée aux couples mixtes, écoute, avec plaisir.
Si c'est pas trop indiscret, les disputes qu'il peut y avoir entre vous à cause de ces différences culturelles, ça peut être quoi ?
Ça peut être quoi ? Alors, la plus récurrente,
ouais.
C'est le désir d'enfant.
Okay.
Je pense qu'au Soudan, les femmes, elles se posent pas la question. Enfin, personne ne se pose la question de si j'ai envie d'avoir des enfants ou pas. En fait, c'est naturel.
Ouais.
Si tu te maries, après, tu as des enfants, tu te dis même pas est-ce que j'ai vraiment envie ? Non. Enfin, c'est vraiment hyper naturel. Et lui, il a très, très envie d'avoir des enfants maintenant. Et il est prêt, il se sent prêt. Et c'est vrai que moi, je le vois déjà papa. Enfin, il serait tellement mignon en tant que papa, c'est sûr. Moi, j'aurais grave le rôle de la méchante et lui, le rôle du gentil papa, tu vois. Et donc, ça, c'est une grosse... Moi, c'est une grosse discussion récurrente parce que moi, tout de suite, là, je me sens pas prête. Je sais que j'en aurais envie... Et j'ai envie d'avoir des enfants avec lui, mais pas tout de suite. Mmh. Et du coup, c'est là où on se dit, bah voilà, si lui, il était avec une femme soudanaise, c'est sûr qu'ils auraient eu des enfants plus tôt. Et moi, si j'avais été avec quelqu'un d'une culture européenne, peut-être qu'il aurait plus compris ou plus rapidement, parce que là, il l'a vraiment compris et il respecte mon choix aussi. Mais peut-être qu'il aurait plus compris plus rapidement que je peux ne pas désirer d'enfants tout de suite. Et penser, parce que là, en fait, j'ai juste envie de profiter. Enfin, j'aime trop ma vie comme elle est maintenant. J'aime bien faire beaucoup de sport, danser, sortir. Et je sais que bon, ce ne sera pas la même chose quand j'aurai un enfant. Donc, chaque chose en son temps. Donc, voilà, ça, c'est une discussion récurrente. Après, c'est plutôt des petits trucs, genre la place qu'on accorde, par enfin je pensais au repas, grosse dispute autour des repas. Non, par exemple les repas en France, je trouve qu'on en fait un peu un gros truc où on reste à table. On attend qu'il y ait tout le monde avant de commencer, à la fin du repas, enfin on attend que tout le monde ait fini et tout, alors que pour lui c'est pas trop un moment important. Le moment important pour lui c'est après manger, c'est quand tu te poses et que tu bois ton café ou que tu bois ton thé. Mais par exemple, du coup, lui, quand il mange, dès qu'il a fini de manger, moi, je mange à 2 à l'heure et lui, il mange super vite. Donc, quand il a fini de manger, genre, il s'en va, tu vois, il va laver sa vaisselle, il va se poser à côté. Et moi, au début, j'étais trop décontenancée. J'étais là, mais j'ai pas fini de manger. Reste avec moi, en fait. Et du coup, ça, c'est plutôt des trucs tranquilles du quotidien. Ouais. Où on n'a juste pas du tout les mêmes habitudes parce qu'on n'a pas grandi dans le même univers, quoi.
Oui, c'est plus une question d'habitude que de grosses différences qui pourraient faire tout péter, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Comment tu imagines ta vie et qu'est-ce que tu te souhaites en amour avec lui pour ces prochaines années?
Eh ben, je me souhaite que notre relation reste comme ça, parce que j'ai peur que ça change.
Tu réécouteras le podcast.
Fiche dans le temps.
C'est... Comment? Tu réécouteras le podcast chaque année, tu diras, attends, est-ce que je pense toujours pareil?
De ouf. Donc non, évidemment, je sais que toute relation évolue et que ça va évoluer, mais j'espère qu'on se supportera toujours, qu'on s'aimera toujours et qu'on aura toujours envie que l'autre soit heureux, et que s'il y a un moment où on souhaite plus le bonheur de l'autre et qu'on est plus heureux l'un avec l'autre, bah, ce sera le moment de se séparer.
Bien sûr.
Mais voilà, du coup, je souhaite que notre relation évolue dans le bon sens et qu'on continue à s'aimer, à créer nos petits moments au quotidien, à continuer à boire des cafés au soleil tous les deux.
Je vous souhaite. Et pour terminer, pourquoi tu as souhaité participer au podcast? Tu souhaites le réécouter, ça, j'ai bien compris.
Pour voir si tout est toujours pareil.
Exactement.
Mais pourquoi tu as eu envie de participer?
J'ai eu envie de participer pour témoigner justement du fait que l'amour, c'est universel et qu'il n'y a pas besoin d'avoir grandi au même endroit, de parler forcément la même langue maternelle et d'avoir la même culture. Parce que ça peut faire peur de l'extérieur d'être avec quelqu'un vraiment différent de soi. Mais en fait... c'est une richesse et je dis vraiment pas que c'est facile parce que ça l'est pas au quotidien, mais que c'est possible. Et aussi pour prendre la parole et pour encourager aussi peut-être d'autres personnes qui sont aussi dans des couples mixtes aux cultures différentes à parler. Comme ça, on peut créer un peu un réseau d'échange entre nous, parce que moi, je suis aussi curieuse d'avoir le témoignage d'autres personnes comme ça qui sont dans un couple mixte. Et ben, comme tu l'avais dit aussi, pour... envoyer une petite lettre d'amour à mon mari. Je pense qu'il sera content d'écouter cet épisode.
Il savait de quoi on allait parler, là.
Oui, bien sûr. Ouais. Il était trop content.
Ah, trop bien.
Ouais, il est trop content. Et il veut aussi qu'on écrive notre histoire.
Trop genre bien.
Par écrit. On avait déjà commencé au début. Enfin, bref. Donc, lui aussi est très content, je pense, de réécouter cet enregistrement dans 10 ans. Donc on l'écoutera ensemble comme des petits oiseaux en buvant notre café.
Trop bien. Merci beaucoup, Océane.
Merci
c'était
à toi,
très Léa. Chouette pour mon premier de 2024.
Yes. Merci.
Trop bien.
Merci beaucoup à Océane pour son témoignage et merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser des commentaires ou des petites étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.